BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir justement dans cette transition énergétique qui nous occupe en tant que particulier, en tant qu'investisseur aussi, en tant que citoyen. Et pour en parler sous un angle financier, Souleymane Jean, Galadima est avec nous. Bonjour Souleymane Jean.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur du multifamily office Sapience. On aborde ce sujet avec vous. Pourquoi investir dans les infrastructures et en particulier celles qui concernent la rénovation, la transition, pour être plutôt précise, énergétique? De quoi parle-t-on?
Alors, il faut savoir que les infrastructures couvrent un large spectre d'activités. On a les transports, les énergies conventionnelles, on a même les télécommunications avec la fibre optique qui est une infrastructure. Mmh. Et le sujet de la transition énergétique et notamment des infrastructures d'énergie renouvelable est un réel sujet parce que c'est clairement le secteur le plus en croissance. En 2019, on avait des investissements annuels à l'échelle mondiale dans l'électricité qui étaient de l'ordre de 700 millions de dollars. À horizon 2030, on parle de 25 000 milliards de dollars dédiés au secteur de l'électricité, dont la moitié sur la production d'énergie renouvelable, donc panneaux solaires, centrales photovoltaïques, éoliens, centrales biomasse, et environ un tiers de cette somme sur l'extension et la modernisation du réseau d'électricité. Donc c'est une vague de fonds, c'est un potentiel d'épargne, entre guillemets, de collecte assez conséquent, et les investisseurs particuliers sont encore peu présents sur ce secteur, puisque d'après les chiffres de France Invest, c'est seulement 2% des fonds collectés sur les infrastructures qui ont été collectés auprès d'investisseurs particuliers et de family office.
Pourquoi, selon vous, ce désintérêt, ce manque d'intérêt, des investisseurs
particuliers ? Je pense qu'on est encore en retard sur la démocratisation. On parlait il y a ça quelques semaines ensemble de la démocratisation du private equity. Elle commence à arriver dans l'environnement des infrastructures, mais ça reste encore une classe d'actifs méconnue. On a souvent tendance à la limiter au sujet des autoroutes et des aéroports, alors qu'elle couvre un grand pan de notre économie. Tout un chacun est confronté aux infrastructures et que habituellement les infrastructures ont été des placements extrêmement long terme. Et ce qui est en train de se passer, notamment au niveau financier, avec aussi l'augmentation du nombre d'acteurs, l'augmentation de la collecte et aussi un marché secondaire qui permet mécaniquement des durées d'investissement plus courtes, on commence à avoir un intérêt pour les particuliers parce que particuliers se positionner à 20 ans, c'était compliqué. Aujourd'hui, sur des maturités de l'ordre de 10 ans qui sont équivalentes à celles du private equity, c'est une vraie opportunité et nos investisseurs, en l'occurrence typiquement chez Sapience, commencent à s'y intéresser parce que on y reviendra, mais elles présentent un certain nombre d'intérêts, notamment celui du sens. C'est quand même assez intéressant de se dire qu'on finance une centrale photovoltaïque et qu'elle va convertir l'énergie solaire en électricité qui sera utilisée par tout un chacun.
Les infrastructures, ce sont souvent un secteur d'investissement, pardon de le dire un peu simplement comme ça, qu'on regarde en temps de crise quand on ne sait pas trop où regarder ailleurs. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en tant que journaliste économique quand on traite les sujets. Quand c'est un peu le désordre, on se tourne toujours vers les infrastructures. Est-ce que c'est le vrai, selon vous ?
Alors, c'est parfaitement vrai, puisque c'est une de ces raisons qui explique sa croissance, puisqu'on a eu une réelle accélération, notamment au lendemain de la crise des subprimes, quand un certain nombre de banques et d'investisseurs institutionnels ont fait ce qu'on appelle le fly to quality, c'est-à-dire voler vers la qualité, vers des actifs sécurisés, résilients, comme sont les infrastructures. Donc oui, c'est un actif qui rassure, qui a en plus, au moment où il était difficile d'avoir de la performance sur les marchés, fourni de la performance à ses investisseurs. Et pourquoi c'est un actif résilient ? Parce que c'est déjà un actif qui présente, notamment quand il est en opération, des flux financiers relativement stables. On sait combien va produire un panneau solaire, on sait combien va produire une éolienne. La variable d'ajustement, c'est naturellement le prix de l'électricité, mais il est en train d'évoluer à la hausse. C'est également un actif avec une forte barrière à l'entrée, puisque souvent les concessions sont fournies sur une durée très longue. Ces concessions sont aussi indexées sur l'inflation. Donc c'est en l'occurrence particulièrement intéressant à cette période d'inflation. Et enfin, c'est surtout des actifs avec une longévité particulièrement longue. La fibre optique, c'est une centaine d'années de durée, donc ça permet notamment à ces opérateurs et de fait aux investisseurs qui les financent de pouvoir avoir un couple risque-rentabilité extrêmement intéressant et d'intervenir à différents stades des infrastructures, que ce soit en amont, au moment de la construction du projet, ou en aval quand il est en opération.
On comprend que les infrastructures aussi, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin tout le temps. Cette stabilité, elle rassure en ce moment par rapport à d'autres actifs ?
Parfaitement. Je vais même aller un peu plus loin et cet avis n'engage que moi, mais je trouve qu'il y a quelque chose de sociétal, de beau dans les infrastructures, c'est que quel que soit son âge, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quels que soient ses revenus, à une époque effectivement où le vivre ensemble est quelque peu menacé, et bien investir dans les infrastructures, c'est fournir ces besoins, ces services essentiels à une société, à une communauté. Et même si on regarde des situations extrêmement douloureuses, comme par exemple la guerre en Ukraine, et bien on se rend compte que dans ces situations-là, leur focus est en l'occurrence le maintien des infrastructures électriques. Donc ce sont des
le focus des Ukrainiens et des investisseurs vers l'Ukraine.
En l'occurrence, sur la partie maintien d'un certain nombre effectivement d'opérations. Malheureusement, il y a énormément de destruction d'infrastructures électriques et donc une bonne partie effectivement du focus sur la reconstruction de l'Ukraine se fait sur les infrastructures parce que ce sont des éléments essentiels à la vie en communauté. Et au-delà de situations aussi critiques que celles en Ukraine, on sait qu'en France, on a eu quelques projets malheureusement qui n'ont pas pu voir le jour. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, on a eu aussi les péages pour les poids lourds en Bretagne avec les fameux bonnets rouges. Et en fait, à chaque fois, même si le projet n'a pas pu voir le jour, l'État a compensé les engagements des investisseurs. Pour une raison simple, c'est que c'est un sujet tellement essentiel aujourd'hui et à long terme pour le développement des infrastructures que les pouvoirs publics soutiennent, accompagnent les investisseurs dans cette typologie d'investissement.
Justement, une précision sur ces infrastructures. On se demande avec vous, Souleymane Jean, pourquoi investir dans les infrastructures quand on met des billes dans l'actif infrastructure? On finance des entreprises privées. Vous étiez en train d'avancer un petit peu sur cette notion de sens, de bien public, etc. Comment on articule une réflexion sans hypocrisie sur le fait qu'on finance des entreprises privées pour ultimement financer la collectivité, outiller la collectivité, équiper la collectivité?
Alors, une raison en fait qui a amené d'ailleurs les gouvernements successifs entre les années 90 et 2000 à une large privatisation, puisqu'il y a eu la privatisation de Suez, des aéroports de Paris, des autoroutes du sud de la France, c'est que premièrement il y avait une volonté de se désendetter et deuxièmement ces infrastructures exigent des investissements colossaux sur le long terme que seuls les opérateurs et les investisseurs privés, fonds institutionnels à l'époque, étaient en mesure de pouvoir engager. Donc nous considérons qu'il n'y a pas, entre guillemets, d'hypocrisie, puisque à l'instant T, les pouvoirs publics n'ont plus les finances suffisantes pour engager ces infrastructures qui sont indispensables à la croissance, que ce soit d'ailleurs dans nos pays développés ou dans les pays en voie de développement. Et ensuite, si on va un peu plus en détail, on indique à nos investisseurs qu'il existe deux manières de financer les infrastructures. Soit ce qu'on appelle le private equity d'infrastructure, c'est-à-dire que vous devenez, via un fonds d'investissement, actionnaire d'un opérateur, mais vous pouvez aussi investir directement dans les projets. Et donc avoir un niveau de transparence et potentiellement d'impact beaucoup plus important, puisque là vous pouvez financer une centrale photovoltaïque, une série d'éoliennes, une centrale biomasse dans une région et pour un besoin spécifique.
Se pose la question de la diversification.
Exactement. Et les infrastructures offrent un grand potentiel de diversification. Nous, quand on fait nos allocations avec nos investisseurs, on les catégorise dans la partie actif réel, notamment aux côtés de l'immobilier. Pour une raison simple, c'est que quand on regarde les statistiques des 20 dernières années, l'indice de corrélation entre les marchés mondiaux type le MSCI World et les infrastructures non cotées est inférieur à 1%. Donc on a une très forte décorrélation entre les marchés côté mondiaux et les infrastructures, ce qui permet, en ce qui concerne Sapiens, de construire des allocations extrêmement résilientes. Donc ça, c'est un élément clé. Et le deuxième aspect, c'est que la France dispose d'asset managers extrêmement brillants. Je pense à Eiffel, donc, qui a été cofondé par Jacques Vera. Je pense à Airgreen, je pense à Meridian, Antin, qui sont des champions internationaux et qui permettent aux investisseurs français particuliers, d'ailleurs quel que soit le montant aujourd'hui, de pouvoir investir dans les infrastructures et donc de diversifier leur patrimoine avec des niveaux de performance qui peuvent être de l'ordre de 4-5% quand on est plutôt sur des infrastructures brownfield, donc en opération, versus plus de 10% de TRI net quand on est plutôt sur des infrastructures greenfield, donc qui sont en phase de structuration et de construction.
Le brown versus le green. Question très concrète, comment peut-on investir dans des infrastructures et quelle est, vous savez, j'aime toujours rapporter ça aux plus modestes des investisseurs qui nous écoutent, à partir de combien on peut être investisseur dans les infras?
Alors aujourd'hui, même avec les ETF en fait d'infrastructure, à partir d'une soixantaine d'euros, puisque c'est à peu près la valeur liquidative de ces ETF, vous pouvez, via un compte titre, via Trade Republic ou d'autres, commencer à investir dans les infrastructures. Vous avez notamment le fameux ETF iShares Water, qui est plutôt sur des infrastructures liées à l'eau. D'ailleurs, c'est un sujet majeur, puisque on sait que en France, c'est 30% de l'eau potable qui est perdue dans les canalisations. Donc, il y a un vrai sujet de rénovation entre guillemets nos infrastructures de distribution de l'eau. Vous avez aussi le Amundi Global Infrastructure. Ensuite, vous avez plutôt la dimension non cotée, puisque aujourd'hui, dans l'assurance vie, vous pouvez avoir certains fonds euros qui s'exposent aux infrastructures pour doper le rendement. Mmh. Vous avez GF Infrastructure, qui est le fameux fonds de Generali, accessible effectivement aussi à partir de quelques milliers d'euros. Et ensuite, vous avez les fameux fonds professionnels, donc pour les investisseurs un peu plus fortunés, avec les fonds professionnels qui permettent, eux, d'aller chercher, à partir de 100 000 euros, des performances de plus de 10%. Et là, plutôt effectivement sur des durées, des maturités beaucoup plus longues, alors qu'en assurance vie, vous pourrez investir dans les infrastructures et en plus bénéficier de la liquidité offerte par l'assureur.
Bon, pour finir ce portrait sur les infras, quels sont les risques sous les managements?
Alors les risques, ils sont déjà celui de perte en capital. On rassure les investisseurs sur le fait que c'est un actif risqué. Vous ne faites pas 10% de terri net sans risque de perte partielle ou totale en capital. Néanmoins, les autres risques un peu plus spécifiques que l'on peut évoquer, c'est notamment le risque politique, le fait du prince, comme on dit. Même si en l'occurrence, en France, on s'est rendu compte que l'État avait toujours soutenu les infrastructures. Donc aujourd'hui, on invite nos investisseurs plutôt à investir dans des pays avec une juridiction solide, plutôt en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, également en Asie, où il y a des vrais besoins d'infrastructures. Ensuite, l'autre risque, c'est celui de l'effet levier, puisque ce sont souvent des solutions d'investissement, des projets fortement endettés. Donc, il faut faire attention à ce que le coût de la dette ne vienne pas obérer trop fortement la performance. Celui de l'illiquidité, il faut être parfaitement conscient, et c'est encore notre méthodologie des poches d'investissement, que cette poche qui sera investie en infrastructure soit plutôt sur du long terme. Et enfin, vous avez naturellement le risque de taux, parce que ce sont finalement des placements qui vont générer de l'intérêt, des coupons sur la durée. Donc, on peut un peu les comparer aux obligations. Et si on a une hausse des taux, on a un risque de perte de valeur. C'est pour ça que là encore, nous, Sapiens, on préfère se concentrer sur les infrastructures que l'on construit, sur ce qu'on appelle l'equity d'infrastructure, qui lui présente une forte création de valeur et de fait est un peu moins impacté par cette potentielle évolution à la hausse ou à la baisse des taux d'intérêt.
Pourquoi investir dans les infrastructures? Le regard de Souleymane Jean Galadima, cofondateur de Sapiens, pour vous investisseurs ou wannabe investisseurs. Cette séquence est retrouvée en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques minutes si vous l'avez attrapé en cours de route. Merci Souleymane Jean pour votre expertise détaillée sur ces infrastructures, notamment de transition énergétique, qui sont, moi j'en suis convaincue, un placement d'avenir, à vous entendre.